Bonjour, aujourd'hui en partenariat avec Le Monde 2, 4 novembre 1956, il y a 50 ans, les chars soviétiques écrasaient l'insurrection de Budapest. À Budapest, les soviétiques ont gagné une bataille, mais le communisme a perdu la guerre. Miklós Molnár. D'histoire. Le 23 octobre 1956, il y a 50 ans à trois jours près, une manifestation à Budapest dégénérait en révolution contre le régime communiste hongrois et l'URSS. Après avoir tenté de ramener le calme en plaçant à la tête de la Hongrie un communiste réformateur, Imre Nagy, Moscou décidait d'employer la force. C'était le début de la répression la plus sanglante qu'aient connue les pays d'Europe de l'Est pendant les 50 ans qu'a duré la domination soviétique. Le 4 novembre 1956, 8 divisions de l'armée rouge pénétraient en Hongrie pour y écraser la révolution de Budapest. Elle le fera au prix de milliers de morts et sans provoquer la moindre réaction du monde occidental, malgré l'appel pathétique lancé à la radio par Imre Nagy, le jour même où les chars soviétiques entraient à Budapest.
Vous voulez me traduire au fur et à mesure? Aujourd'hui, dans ce matin, les Russes ont attaqué notre capitale avec l'intention d'enverser le gouvernement. Nos troupes sont en combat. Le gouvernement est à sa place. Je sais ça au peuple et à la monde.
Derrière l'hôtel Duna, entre l'hôtel Duna et le Danube, voici les chars russes qui passent.
Ils tirent à la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur.
C'était un reportage impressionnant d'Alain de Sédou et André Télex qui était à Budapest le jour où les chars soviétiques y sont entrés. André Farkas, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vous-même été le témoin de ces événements. Vous les racontez dans un livre qui vient de sortir chez Talendier, Budapest 1956, la tragédie telle que je l'ai vécue. Est-ce que 50 ans après, vous y pensez souvent? Quelle impression vous faites de l'archive que l'on vient d'entendre?
Naturellement, c'est quelque chose qui vous poursuit dans toute votre vie. C'est un événement extraordinaire pour le monde. C'était encore plus un événement extraordinaire pour un jeune homme comme moi qui avait 25 ans à l'époque. Et je travaillais en tant que journaliste au journal du soir de Budapest. Alors ce bruit qu'on vient d'entendre là tout à l'heure, les chars russes, je les ai entendus en direct. Et c'était d'autant plus étonnant pour moi que la veille, nous étions convaincus que grâce à des négociations, car les Russes nous ont fait croire qu'il y avait moyen de s'entendre entre nous et qu'ils allaient à terme, avant la fin de l'année, retirer leur armée, malgré ces promesses naturellement fausses, quand je suis rentré chez moi la veille et je me suis couché en me disant demain, dimanche, je me repose et lundi, nous allons reprendre le travail, j'étais très étonné d'entendre ce bruit. J'ai cru d'abord que je faisais un cauchemar. Il était 3h30, 4h du matin, j'avais la fenêtre ouverte malgré le froid, et j'ai entendu ce bruit, je m'étais dit ça y est, le monde est en train de s'écrouler.
Henri-Christian Giraud, vous êtes trop jeune, vous aviez 12 ans, je crois, quand ça s'est passé, mais c'est plutôt vers l'historien que je me tourne. Vous venez de publier aux éditions du Rocher Le Printemps, en octobre, une très volumineuse histoire de la révolution hongroise. Il faut peut-être rappeler quand même, revenir en arrière et rappeler ce qui est à l'origine de tout cela. Il y a d'abord un événement majeur et qui peut surprendre quand on sait ce qui a suivi. C'est ce qu'on appelait le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. lorsque Khrouchtchev, le numéro un soviétique, a déstalinisé ce qui semblait annoncer une espèce de dégel dans le bloc soviétique. Et ça, nous sommes à quelques mois de l'écrasement de la révolution de Budapest.
Oui, ça a été une très grande surprise, évidemment, y compris, je pense, pour les pères de Khrouchtchev, certains membres du Présidium, qui ne s'attendaient sans doute pas à de tels propos de la part de Khrouchtchev. Il les a tenus et ses propos ont été progressivement connus en Occident, peut-être plus rapidement en Occident d'ailleurs que dans les pays d'Europe centrale, que dans les pays sous le joug communiste. Mais ils ont fini par être connus et il est évident que dénoncer les crimes de Staline, comme Khrouchtchev l'a fait, c'était ouvrir la porte à une certaine liberté ou une libération.
Et ouvrir une boîte de Pandore, parce que du coup, que fait Khrouchtchev en condamnant les crimes de Staline? Il condamne tous les dirigeants communistes du bloc de l'Est. Et c'est la raison pour laquelle, dans deux pays, il y a eu une agitation, un grand espoir, un printemps, c'est le titre de votre livre, on s'est dit, on ne risque plus rien, c'est fini le stalinisme, et dans deux pays, et d'abord, avant la Hongrie, en Pologne.
En Pologne, en effet, en juin 56, c'est-à-dire quelques mois seulement avant l'octobre hongrois, il y a des émeutes à Poznan, et ces émeutes sont durement réprimées. Elles font quelques 50 morts et plus de 300 blessés. Mais les dirigeants communistes polonais comprennent que la répression ne suffira pas pour calmer le mécontentement populaire et envisagent donc de laisser la place à un ancien dirigeant, le fameux Gomulka, qui avait été emprisonné par Staline 4 ans auparavant.
Alors ça va calmer les choses, ça se passe en août, l'arrivée de Gomulka au pouvoir, et c'est par solidarité avec ce qui s'est passé en Pologne que, en Hongrie, le 23 octobre 1956, se produit une révolte, une insurrection contre le gouvernement et même contre l'URSS.
Les Russes à la maison. Ils sont ici une trentaine. Parmi eux se trouve une jeune fille de 17 ans. Certains sont en uniforme, mais ils ont ôté les étoiles rouges qui ornaient leur képi. Tous portent un brassard tricolore, rouge, blanc, vert.
Hongrois Petőfi du 19e siècle, mais qui a été mis en musique en 1956 et que l'on entend aujourd'hui chanter. Je crois qu'on le chantait dans les rues de Budapest. André Farkas, vous avez vécu ces événements, ce soulèvement, ce début de l'insurrection le 23 octobre 56.
Oui, alors vous citez Petőfi, là, cette occasion tout de même, je voulais dire que les Hongrois sont très respectueux des traditions historiques. Et dans leur esprit, 1848, le soulèvement contre les Habsbourg, l'arrivée des troupes du tsar qui a permis à François-Joseph d'écraser la révolution hongroise déjà en 1848, est restée dans les esprits. Et Petőfi, ce jeune poète qui a sa statue à Budapest et qui est admiré aussi bien par les jeunes que les vieux, est resté notre symbole, si vous voulez, toute notre jeunesse.
Et puis alors, d'ailleurs, c'est tellement, cette manifestation du 23 octobre est tellement en solidarité avec la Pologne aussi, que je crois qu'elle se déroulait au pied de la statue de Bem, qui était un Polonais qui était venu en 1848.
C'est un Polonais qui est venu en Hongrie, donc,
pour aider les Hongrois.
Ouais. C'est un général, un militaire de grande capacité qui a aidé les Hongrois à se battre contre les Autrichiens et les Russes, et il a toujours sa statue très digne devant le bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Et les étudiants qui sont réunis le matin, c'était surtout les étudiants, les futurs ingénieurs, et qui étaient donc sur la rive droite du Danube, ont décidé de partir de leur école et se porter devant la statue de Bem. Tout a commencé comme ça.
Et alors ça a dégénéré surtout, et c'est ça qui devient grave, dangereux pour l'URSS. Non seulement ce sont des manifestations contre le pouvoir qui existe en Hongrie, mais aussi contre l'URSS. On qu'on a entendu, les Russes chez eux, les Russes à la maison, retournez chez vous. Ça, c'est évidemment, c'est un mouvement qui dégénère très vite, Henri-Christian Giraud.
Oui, c'est un mouvement qui dégénère très vite, qui naît d'ailleurs le 22 octobre dans la faculté polytechnique à Budapest, un premier colloque étudiant et qui met au point les fameux 16 points. Alors il y en a eu plus d'une trentaine de points, mais finalement ils ont été réduits à 16. Et le premier de ces points, c'était le retrait des soviétiques du territoire hongrois.
Alors le gouvernement hongrois est dépassé, une partie de l'armée hongroise se solidarise avec les insurgés. Alors pour calmer les choses, deux communistes réformateurs sont mis au pouvoir en place, Kadar qui remplace le premier secrétaire du Parti communiste de l'époque, Guéreux, et puis Imre Nagy, qui prend la tête du gouvernement et s'adresse aux insurgés dont le mouvement s'est entre-temps étendu dans tout le pays.
Peuple de Hongrie, nous avons vu le sang couler de façon tragique. Il est clair que durant ces événements, le peuple a fondé un mouvement démocratique à l'échelle nationale.
Partout des troupes, soldats russes, soldats hongrois, civils porteurs de brassards de l'armée de la libération. Là, tout à l'heure, un groupe de partisans emmenait un prisonnier. On chuchote ici que l'on pend d'anciens chefs communistes dans plusieurs villages. Toutes ces régions situées à l'ouest du Danube semblent être aux mains des insurgés. Quelle forme de gouvernement désirez-vous obtenir?
Nagy, en français on écrit Nagy, N-A-G-Y, mais ça se prononce Nagy, je crois, en
hongrois. Alors, on prononce son nom Nagy, en hongrois, ça veut dire grand, gros. Imre Nagy, c'était un ancien communiste, c'est quelqu'un qui était prisonnier des Russes pendant la Première Guerre. Il s'est trouvé en Russie au moment de la Révolution. Il a fait le coup de feu avec les gardes rouges et il est devenu communiste, convaincu, militant, à tel point que d'abord il est revenu en Hongrie, il a été condamné à la prison, puis il est retourné en Union soviétique. Il a travaillé à la radio et également dans l'agriculture. Il était formé, c'est un communiste convaincu.
Mais qu'est-ce qui fait de lui, justement, un réformateur, puisque c'est à lui qu'on fait appel, au fond, pour calmer les choses?
Le mot réformateur, si vous voulez, a une consonance un peu différente dans ces régimes soviétiques. Oui. Nagy, c'était un homme, il était moins dogmatique, moins convaincu que les autres dirigeants du Parti communiste hongrois, et en plus, c'est un homme qui, par ses origines paysanne, par son passé d'ouvrier simple, il était serrurier dans une usine quand il était jeune, quelqu'un qui avait du bon sens, tout simplement, du bon sens pratique. Il y a un autre point là que je vais évoquer tout de même. En 1945, on a procédé à la réforme agraire en Hongrie, parce que la moitié des terres arables étaient concentrées dans les mains de 1% de la population. C'est impressionnant. Donc, il a été décidé démocratiquement de distribuer les terres aux paysans pauvres, et c'est Imre Nagy qui s'en est occupé. Et c'est grâce à ça qu'il a gardé aussi...
Il est assez populaire.
Ouais. Ah oui, très populaire.
Alors, en tout cas, il prend la tête du gouvernement hongrois, mais manifestement, il est dépassé par la pression de la rue qui se manifeste. Et alors, il va prendre, pendant cette période dans laquelle les soviétiques interviennent, puis finalement renoncent, pendant cette période qui a duré une dizaine de jours, il va prendre deux mesures, Henri-Christian Giraud, qui vont beaucoup plus loin que ce qu'a fait Gomulka en Pologne, qui vont peut-être expliquer l'intervention soviétique. D'abord, il préconise le multipartisme, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a multipartisme en Hongrie, il y en aura dans tous les pays communistes où n'existe qu'un parti unique, donc il ébranle tout l'édifice. Et alors, surtout, plus grave encore, le 1er novembre, il proclame la neutralité de la Hongrie. Ça, c'est grave, Henri-Christian Giraud.
Oui, c'est grave, évidemment, mais il est poussé à le faire, et il est poussé à le faire par l'invasion continue du territoire hongrois par les divisions blindées soviétiques. Sans arrêt, le Kremlin envoie des divisions en provenance de Roumanie, de Pologne et d'Ukraine. Et ça, depuis le 24 au soir. Donc Nagy convoque à plusieurs reprises Andropov, l'ambassadeur soviétique à Budapest, qui sera le futur patron du KGB d'ailleurs, et pour le semoncer et lui demander d'interrompre ses envois de troupes. Mais comme le Kremlin continue d'envoyer ses troupes, Nagy n'a pas d'autre solution, n'a pas d'autre issue que de dénoncer le pacte de Varsovie.
Oui, c'est ça.
Et de déclarer...
Quand on dit neutre, ça veut dire que l'OTAN, au fond des pays de l'Est, c'est-à-dire le pacte de Varsovie, bah, il disparaît. En tout cas, il y a un de ses membres qui... Alors, c'est ce qui explique, évidemment, sans doute, qu'après 10 jours d'agitation, d'hésitation de la part des autorités soviétiques, eh bien, l'URSS décide d'intervenir et fait entrer l'armée rouge qui arrive à Budapest le 4 novembre 1956 à l'aube.
Des troupes soviétiques se dirigent vers Sopron et Egesholom. Dans les usines de Budapest, des groupes importants d'ouvriers se défendent désespérément contre les Russes.
Derrière l'hôtel Duna, entre l'hôtel Duna et le Danube, voici les chars russes qui passent. On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux.
Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas moi se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, je viens.
Il tire à la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur.
Un troisième char arrive.
Ah oui?
Extraordinaire cette archive, Alain de Sédou et André Teillex qui étaient présents à Budapest, qui ont failli être tués d'ailleurs dans leur hôtel par un obus soviétique et au début d'une bataille qui a duré plusieurs jours, une bataille de rue également, vous l'avez vu, André Farkas, extrêmement violente parce que voilà que les insurgés se dressent, se mettent en face des chars soviétiques.
C'est ça, et c'était des insurgés très très mal organisés, en fait c'était... totalement spontané, pour la plupart c'était des jeunes gens, même des enfants parfois, qui avaient 12, 13, 14 ans, et disons que les plus âgés avaient 20 ou 22 ans. C'est impressionnant, et ils avaient une capacité de se battre, et on a cherché l'explication à ça, si vous voulez. Nous avons été gavés depuis 1945 de films soviétiques en nous racontant l'histoire des partisans dans les forêts ukrainiennes. En nous expliquant les méthodes, comment ils s'organisaient, comment la disparition des hommes déjà plus mûrs, c'est les jeunes qui ont pris en charge la direction des groupes. Et ça laissait des souvenirs, sans parler de la formation militaire qu'on dispensait à tous les jeunes Hongrois. Ça durait tout de même à l'époque 2 ou 3 ans, là, le service militaire. Donc on a appris pas mal de choses des Russes. Le deuxième, il faut en parler, c'est la témérité des Hongrois, et une certaine témérité, si vous voulez. Tout le monde ne sait pas que le mot hussard, ça vient du mot unité de 20. C'est un mot hongrois, et les hussards sont des inventions hongroises, si vous voulez, sont des gens qui attaquent parfois sans réfléchir. Et c'est comme ça que c'était passé, il faut le dire.
Là, et avec une violence inouïe, en Christian Giraud, quand on lit dans votre livre, c'était vraiment très très impressionnant. Il y a eu plusieurs centaines de morts, enfin les chiffres sont difficiles à établir. Il faut rappeler aussi, vous le faites, que c'est Kadar lui-même qui passait lui aussi pour, disons, un communiste modéré, qui a fait appel à l'URSS, alors que Nagy, en revanche, on l'a entendu, il fait appel au secours extérieur.
Oui, enfin, Kadar fait appel aux Russes une fois que les Russes sont déjà intervenus, disons, il n'est que la caution russe. Hein. Il faut savoir, pour avoir une idée du courage inouï de ces jeunes combattants de la liberté hongrois, qu'ils ont affronté plus de 150 000 soldats soviétiques et 2600 chars. Et ces 2600 chars, pour la plupart, notamment lors de la deuxième intervention, étaient des nouveaux chars, nouveaux modèles, c'était des T-54, 55.
On n'a jamais vu ça dans les pays communistes, ni avant à Berlin, ni après en Tchécoslovaquie,
c'est
ou
unique.
Même en Pologne. C'est assez unique.
L'exemple.
Et cela sans que réagisse la communauté internationale, malgré cet appel pathétique lancé de Budapest par les écrivains hongrois le 4 novembre et repris par François Mauriac à Paris le même jour.
Attention, attention. Ici la Fédération des écrivains hongrois. À tous les écrivains du monde, à tous les savants, à toutes les associations d'écrivains et académies, à l'élite intellectuelle du monde entier, nous demandons aide et secours. Aidez la Hongrie. Au secours, au secours.
La radio des insurgés hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant.
François Mauriac.
Poète, écrivains, savants du monde entier, les écrivains hongrois s'adressent à vous, à l'heure suprême, au nom d'une nation massacrée. L'heure a sonné, où les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes, faites quelque chose, agissez, secouez l'inertie horrible de l'Occident, agissez. Ce message est bouleversant. Agir, hélas, que faire? Les derniers événements, les plus récents, nous montrent que dans le monde actuel, la force prime tout.
Très émouvant cet appel de Mauriac le 4 novembre 1956, André Farkas. Est-ce que vous avez vraiment cru à une aide extérieure à ce moment-là de Budapest?
Ah, tout à fait. Si vous voulez, aussi idiot que ça puisse paraître aujourd'hui, nous avons été convaincus, mais alors tout à fait convaincus, que l'Occident allait intervenir, nous laissait pas tomber, et sous quelle forme, on pouvait pas le savoir, mais on pensait à une intervention militaire peut-être. Il y avait tout de même l'exemple de la Corée. On pensait aussi à l'intervention des Nations Unies, on comptait là-dessus. Et moi, qui est en contact tous les jours avec les journalistes occidentaux, qui logeaient tous pratiquement au même hôtel à Budapest, je suis allé les voir tous les soirs pour faire le point avec eux, et je leur ai dit, mais je suis sûr qu'ils vont arriver, les Américains, les Français, les Anglais, l'ONU, etc. Ils m'ont dit, mais tu n'as rien compris, c'est totalement inimaginable.
Et puis c'est la guerre froide, il faut rappeler, l'URSS est un pays qui a la bombe atomique, les États-Unis aussi. Il y a aussi autre chose qui est importante en Christian Giraud, c'est que c'est exactement contemporain des événements de Suez, et qui ont en quelque sorte occulté ce qui se passait à Budapest, parce que quelques jours avant l'intervention soviétique à Budapest, il y avait cette intervention franco-anglaise à Suez, et du coup, la une des journaux, c'était plus Suez que Budapest.
D'ailleurs, c'est un certain nombre de grands reporters en poste à Budapest ont quitté Budapest pour se rendre sur le front de Suez. Tout à fait. Mais la décision de Suez a été prise le 22 octobre au matin, alors que la contestation en Hongrie n'a lieu qu'à partir du 22 octobre dans l'après-midi, et notamment et surtout le 23. Suez n'est pour rien dans cette affaire et n'a servi aux Russes que de paravent.
Alors en tout cas, l'événement de la révolte de Budapest passe un peu après ce qui se passe à Suez, et puis occulte un peu, non seulement ça fait passer un peu pour inaperçu, l'exécution des principaux responsables de soulèvement de Budapest qui ont été arrêtés par les soviétiques.
Le ministre hongrois de la Justice nous informe que le Sénat populaire de la Haute Cour a prononcé les peines suivantes contre Imre Nagy et ses complices. Imre Nagy, peine capitale. Paul Maleter, peine capitale. Józef Szilágyi, peine capitale. Miklós Kimes, peine capitale. Sándor Kopács. Les sentences de mort ont été immédiatement exécutées.
L'hymne national de la Hongrie libre, ils ont essayé de le chanter, ces 152 réfugiés hongrois, hommes, femmes, enfants et surtout très jeunes gens, et qui sont arrivés ce matin à Paris, mais aucun n'a pu aller jusqu'au bout de l'hymne, car tous pleuraient.
C'est une archive qui doit vous faire quelque chose, André Farkas. Vous-même, vous avez quitté Budapest, la Hongrie, en décembre, je crois, 1956. Beaucoup de gens sont partis. L'émigration
beaucoup,
était très importante.
Nous étions 200 000 à quitter la Hongrie à ce moment-là. C'est beaucoup pour un petit pays de 10 millions d'habitants. Personnellement, je suis parti par la Pologne, où j'avais beaucoup d'amis, et où il y a eu des événements révolutionnaires également, bon, qui se sont arrangés sur un plan plus pacifique, mais j'ai senti cette sympathie qu'avaient les Polonais vis-à-vis de nous. Et en arrivant à Paris quelques semaines plus tard, j'ai pu constater la grande gentillesse et la compréhension de toute la population parisienne.
Parce que c'est un événement qui a évidemment quand même beaucoup perturbé le monde entier. Il s'est pas limité, ça va de soi, à la Hongrie, même s'il n'y a pas eu de réaction. Je lis les titres de journaux de l'époque, tous sont très bouleversés par ce qui se passe. Beaucoup de communistes français ont déchiré leurs cartes. L'Humanité quand même écrit ce jour-là, écrit au moment de l'écrasement, en Hongrie, le pouvoir populaire est solidement rétabli. Et puis, le Parti communiste français approuve pleinement la conduite du gouvernement gouvernement ouvrier de Hongrie face à l'offensive acharnée et bestiale des fascistes. Il eût été inconcevable que l'armée des ouvriers et paysans, etc. C'était incroyable, c'est la seule fausse note, si on peut dire, mais elle est quand même de taille. Cela dit, le PC a été ébranlé. Sartre, je crois, a enfin pris ses distances avec le PC de l'époque, hein, je le rappelle. Ça a quand même troublé beaucoup les gens. Et alors, ce qui me frappe aussi, Henri-Christian Giraud, c'est que, d'une certaine manière, quand même, on peut se demander dans quelle mesure, malgré son écrasement, malgré les morts, je crois qu'il y en a eu environ 3000, eh bien, cette insurrection, d'une certaine manière, a servi à quelque chose. La Hongrie, ensuite, a été un des pays qui s'est le plus rapidement libéralisé en Europe de l'Est.
En effet, il y a des défaites plus prometteuses que des victoires. Et il faut bien savoir que l'onde de choc qui va faire s'écrouler le mur de Berlin est partie le 2 mai 1989 de Hongrie. Le ministre des Affaires étrangères hongrois, en accord avec son homologue autrichien, alors a supprimé le rideau de fer. Et les vacanciers est-allemands qui prenaient le soleil sur les bords du lac Balaton se sont réfugiés en Autriche et de là en Allemagne de l'Ouest.
C'est quand même plus de 30 ans après la révolte, Henri-Christian Giraud. Mais c'est vrai que cette phrase qu'on a entendue au début de Miklós Molnár, à Budapest, les soviétiques ont gagné une bataille, mais le communisme a perdu la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, André Farkas?
Bon, moi, je pense que le communisme qui s'est maintenu en Hongrie sous pression russe, si vous voulez, ne ressemblait plus à ce que nous avions connu, à ce communisme pur et dur, stalinien. Et pour que les choses aillent plus ou moins bien, Kadar, qui est une personnalité odieuse, était obligé de composer avec l'économie de marché. Il a permis beaucoup de choses qui étaient absolument impensables avant. Et la Hongrie s'est transformée petit à petit dans une espèce de mélange de Yougoslavie, de Russie, un petit peu de l'Occident. Et c'est pour ça que les Hongrois ont vécu mieux que leurs voisins.
Est-ce qu'on se souvient aujourd'hui à Budapest de ce qui s'y est passé il y a 50 ans?
Alors, les gens d'un certain âge, oui. Les jeunes, naturellement, ils savent. Mais je pense qu'ils ont d'autres soucis. Ils regardent dans l'avenir. Je pense que, vous savez, aujourd'hui, ceux qui passent leur bac, là, cette année, en Hongrie, sont des enfants qui sont nés après les événements de 56. Donc, ils pensent à autre chose, ils veulent devenir européens à part entière.
Et, ben, ils sont
ils ont raison, et c'est un grand souvenir, mais c'est pas déterminant.
Merci à vous deux, André Farkas. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Budapest 1956, La tragédie telle que je l'ai vécue, qui a été publiée aux éditions Talendier. Quant à vous, Henri-Christian Giraud, vous venez de publier Le printemps en octobre, une histoire passionnante de la révolution hongroise, publié aux éditions du Rocher, un très gros livre, mais très complet. À lire également Le Monde 2, qui sort aujourd'hui et dont nous sommes partenaires pour son dossier Archives, un vent de liberté en Hongrie. Et puis Budapest 1956, La Révolution, publié chez Biro Éditaire, un très beau livre de photographie d'Eric Lessing avec des textes de François Fecheteux notamment. Et enfin, Les héros de Budapest de Phil Kazohar et Esther Balach, publié aux éditions Les Arènes. Enfin, beaucoup d'autres livres encore à l'occasion de ce 50e anniversaire et dont vous trouverez les références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bézikian, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Comilac. Thank you.